Bonjour, la situation en Libye était assez calme ce matin après les violences d'hier entre rebelles et pro-Kadhafi. Le leader libyen Muammar Kadhafi reste toujours introuvable. Notre envoyé spécial dans le pays est arrivé à Tripoli. Nicolas Vultier nous décrira ce qu'il a pu observer depuis son arrivée sur place. Apple a depuis cette nuit un nouveau directeur général en la personne de Tim Cook. Steve Jobs, en congé maladie depuis janvier, a donc démissionné mais reste président du conseil d'administration. Nous reviendrons sur la manière dont l'emblématique patron a notamment révolutionné la technologie mobile. Antoine Droux reviendra aussi sur le côté messianique de Steve Jobs alors que les réactions sur le web sont vives depuis cette annonce de démission. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une mention prestigieuse qui attire toujours plus les villes ou les cantons. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel s'interroge ce soir sur la multiplication de ces labels et sur leurs répercussions. Nous en parlerons avec l'anthropologue Olivier Schintz dans une vingtaine de minutes. En cette période de rentrée scolaire, un nouveau manuel va faire son apparition. Mon enfant réussit sa scolarité, donne des pistes aux parents inquiets par les résultats de leur progéniture. Abandon, absentéisme, troubles de l'attention, manque de motivation. Difficulté d'apprentissage. L'auteur de ce livre, l'enseignante Isabelle Pérez, se veut rassurante. À tout problème, une ébauche de solution est possible. Elle est notre invitée en fin de journal. Des orages et de la pluie sont annoncés en seconde partie de journée. Il va faire encore 29 degrés cet après-midi en pleine. Demain, le temps sera nuageux, pluvieux. Le temps pour ce week-end s'annonce plus ensoleillé, même si nous perdrons tout de même 10 degrés. Météo de Carole Dubuis dans une demi-heure. Et on va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un bouchon s'est à présent formé entre l'échangeur d'Écublanc et la jonction de Morges-Est en direction de Genève suite à un accident. La voie de droite est fermée dans ce secteur. En Libye, la situation était plutôt calme. Ce matin, du côté de la capitale Tripoli, hier, de nombreux tirs retentissaient autour du quartier général de Muammar Kadhafi, pris par les rebelles. Aujourd'hui, quelques quartiers seraient encore aux mains des pro-régimes, mais les tirs restent pour l'instant sporadiques. Des tirs d'artillerie lourde ont par contre été signalés sur la route menant à Sirte, à l'est de Tripoli, également à l'ouest, dans la ville de Zouara. Notre envoyé spécial Nicolas Vultier se trouve dans la périphérie de Tripoli, dans un endroit tenu par la rébellion. Voici son récit.
Tripoli, camp de Rigate. C'est ici qu'une partie des combattants rebelles libyens ont pris leur quartier. Ils se sont installés dans ces petites maisons de vacances qui bordent la mer. À cause de la chaleur, la majorité des jeunes insurgés dorment dehors. L'eau et l'électricité sont coupées. Au loin, on entend encore des tirs. Rigate, c'est un complexe touristique construit par Hannibal Kadhafi, un bon ami de la Suisse, lance en riant un combattant. Dans la périphérie de la ville, le CNT tente toujours de prendre le contrôle des dernières poches rebelles et des combats se déroulent sur la route de Sirte, ville natale du colonel Kadhafi. De son côté, l'OTAN a décidé de fournir des renseignements et du matériel de reconnaissance pour aider à la recherche de Kadhafi et de ses proches. L'ancien guide de la révolution libyenne reste toujours introuvable. Nicolas Vultier, Radio Suisse Romande, Tripoli.
Et quatre journalistes italiens qui avaient été enlevés hier en Libye ont été libérés, indiqué il y a une demi-heure le ministère des Affaires étrangères, confirmant une information donnée par le journal italien Corriere della Sera. Quant au bateau d'évacuation des migrants de Tripoli, il a accosté ce matin dans la capitale libyenne, a annoncé un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations. La démission de Steve Jobs de la direction générale d'Apple a pour le moins surpris la nuit dernière. On le rappelle, Steve Jobs cède sa place de directeur général à Tim Cook, mais Steve Jobs reste tout de même président du conseil d'administration. Ce changement de fonction a surpris jusque dans les rangs des employés d'Apple. Ils ont appris la nouvelle en même temps que le grand public. Il y a maintenant une douzaine d'heures environ et sur le net, les réactions sont fortes, extrêmes, même à la hauteur du côté messianique de l'homme Antoine Droux.
La barbe, la maigreur, la force de conviction, la communion dans laquelle semblent plonger les spectateurs de ces présentations, les fameuses keynotes, tous les ingrédients sont là. Steve Jobs est considéré au moins comme un guide par ses fans, voire comme leur messie, celui qui a changé leur monde à défaut d'avoir vraiment bouleversé le monde. Il y a aussi bien sûr le côté miraculé qui colle au basket de Steve Jobs, un homme qui survit depuis 6 ans à une forme rare de cancer du pancréas, doublé d'une greffe de foie. Qu'on aime ou pas les produits d'Apple, on comprend donc mieux cette quasi-ferveur du public lorsque l'homme présente ses nouveaux produits, comme l'iPad par exemple, il y a une année et demie.
And we call it the iPad.
Une ferveur qui ne date pas d'hier, qui semble être née en 1984 lors du lancement du premier Macintosh. Rendez-vous compte, madame, monsieur, cet ordinateur parle.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a maxim I thought of the first time I met an IBM mainframe.
Mais qui dit gourou dit aussi souvent tyran, tyran qui réveille des ingénieurs en pleine nuit, tyran qui humilie des équipes entières, tyran qui verrouille tout autour de lui, qui n'hésite pas à envoyer bouler des internautes qui posent des questions. Reste qu'aujourd'hui, près de 30 ans après cette présentation, Apple, fondée par Steve Jobs dans un garage californien, vaut 346 milliards de dollars. C'est la deuxième entreprise la plus chère du monde après le géant pétrolier ExxonMobil. Certains parle d'un miracle.
Et Antoine, dans quel sens vont les commentaires aujourd'hui sur le net ?
Le départ de Steve Jobs sur Twitter, c'est 45% d'internautes qui pleurent, 15% qui s'en foutent et le reste qui cherche des jeux de mots, commentait Acide, un utilisateur du réseau social. Et en lisant les messages, on ne peut que lui donner raison. Chez les fans qui semblent plus marqués par cette démission, c'est le drame. Au revoir Steve, les amoureux de la marque sont choqués, le ministre de la magie se retire. Tristesse, choc, des mots qu'on s'attendait plutôt à entendre en cas de décès, alors qu'il s'agit, on le rappelle, d'une démission. Un site internet a d'ailleurs été créé pour envoyer des messages de soutien. Get well Steve, porte-toi bien Steve.
Effectivement, il suscite l'émotion. Antoine Roux, chef de la rubrique multimédia de la RSR. Bonjour Damien Bancal.
Bonjour.
Journaliste spécialisé en nouvelles technologies pour le site Zatas.com. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'Apple va survivre au départ de Steve Jobs, de cette direction d'Apple ?
Survivre, oui. On est quand même en face d'une firme avec quelques dollars en poche. Ce qui va être plus compliqué, c'est qu'ils perdent leur artiste, leur tête pensante, celui qui a amené le design dans l'informatique et qui fait que ça va peut-être encore faire quelques remous, comme il y avait eu des remous il y a une quinzaine d'années quand il avait été mis à la porte.
Steve Jobs, c'est une marque évidemment, un personnage. Est-ce qu'il a amené une âme à sa marque, Apple ?
Oui, clairement. C'est quelqu'un qui a amené déjà un petit peu sa dictature du design, mais ça a fonctionné, la preuve, il suffit de voir l'iPhone, l'iPad et les produits informatiques plus purs. Il est clair qu'il a amené sa touche, cette folie qui fait que aujourd'hui on n'a plus honte d'avoir un ordinateur coloré, on peut passer à autre chose, donc on a effectivement cette marque, cette touche Steve Jobs. Donc malheureusement sa maladie à première vue est en train de gagner, mais lui il est clair qu'il a gagné quasiment l'intégralité des cœurs des passionnés d'informatique.
Antoine Droul disait tout à l'heure, on parle pas souvent de lui en termes de tyran, on voit plutôt cette entreprise comme un lieu très décontracté, très cool. Est-ce que c'est vraiment tout le contraire au sein même d'Apple ?
Disons qu'on a une maîtrise de la communication qui est énorme. Ils adorent nous présenter leur open bar, leur open space. C'est ouvert, c'est coloré, c'est beau, il y a cantine, il y a piscine, il y a tout ce qu'il faut. Mais ils sont aussi les premiers à quadriller, contrôler une communication. Ce qui ne leur plaira pas ne passera pas. Et on sait très clairement que derrière tout ça, il y a une maîtrise intégrale de l'information. Et la maîtrise de l'information fait la maîtrise des prix et des produits.
Effectivement, Apple, on le rappelle, 346 milliards de dollars. Voilà ce que pèse effectivement ce groupe. Vous parliez communication tout à l'heure. On sait que Steve Jobs avait beaucoup de plaisir à venir devant les médias et faire des communications sensationnelles. Effectivement, il est dans un état de santé assez mauvais. Est-ce que vous pensez que pour pouvoir continuer à être bien présent sur ce marché technologique, il faudrait qu'il continue en tout cas à communiquer lui-même ?
Ça va être très compliqué. Communiquer, oui, mais il faut pas oublier que c'est aussi une communication par l'image. Et là, vu son état, il suffit de le regarder, il fait vraiment peine à voir. Il est plus possible pour un produit, une marque, une société, de mettre en avant quelqu'un de malade. Il faut pas oublier qu'en plus, on est avec les Américains, que l'image est super importante et qu'aujourd'hui, malheureusement, son état de santé fait qu'il est plus possible de s'afficher. Et ce qui va être bien dommage, parce que c'était un vrai geek, c'était ce passionné d'informatique qui maîtrisait le monde informatique et qui avait une façon de présenter ses produits qui faisait rêver tout le monde.
Restez avec nous Damien Bancal, puisqu'on va aussi juste évoquer le fait que cette annonce de démission a fait chuter l'action Apple de 5,3% à la bourse de New York, alors que ses concurrents asiatiques comme Samsung ou LG Electronics ont vu leur action grimper. Eh bien écoutez, malgré cela, l'avis d'un spécialiste, analyste à l'Union bancaire privée, Olivier Good. Pour lui, il n'est pas très inquiet pour l'avenir d'Apple, on vous retrouve après.
Non, pas franchement, je pourrais qualifier ça de trou d'air à court terme, étant donné que Steve Jobs ne se retire pas, mais laisse un petit peu l'opérationnel à son second, donc Tim Cook, c'est-à-dire qu'il va continuer comme à influencer sur la stratégie de la société. La société est vraiment sur une inertie positive pratiquement sans faille pour l'instant. On peut presque parler d'anomalie pour l'instant. C'est vraiment très
pourquoi
très
anomalie,
rare.
Vous dites ?
Anomalie, parce que c'est très très rare qu'une société technologique puisse tenir un leadership aussi longtemps. La plupart des sociétés qui l'ont fait généralement par des brevets qui protégeaient donc leurs produits. Dans le cas d'Apple, il n'y a pas vraiment de si vous voulez, de brevets purs et durs pour protéger un smartphone, pour protéger un iPhone, pour protéger une tablette, etc. Là, on parle plus d'un marketing très intelligent. Et surtout, la petite pointe de génie encore supplémentaire, c'est que c'est pas uniquement les produits, c'est un concept, c'est un écosystème.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tim Cook, le nouveau directeur opérationnel ?
Et je dirais du profil de cette personne qu'il n'est pas visionnaire comparé à un Steve Jobs. Par contre, c'est un excellent, excellent manager. Donc il est vraiment là pour contrôler la bonne santé financière et stratégique à court terme de la société. Et ça fait maintenant facilement plus d'un an qu'il fait ça. Je crois que c'est largement probant. Donc pas de souci de ce côté-là.
Propos recueillis par Francesca Argirofo. Damien Manquel, vous êtes resté avec nous. Vous venez de l'entendre. Apple, un écosystème. Votre réaction ?
Oui, clairement. On est vraiment dans un milieu très 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 fermé, hein. Il suffit de voir les produits qui sont vendus, mais c'est quelque chose de ultra fermé et bizarrement tout le monde veut y rentrer dedans, donc économiquement parlant il n'y a pas trop à craindre, même si cette tête pensante, ce créatif eh bien quitte un petit peu le bateau, mais il n'est pas seul, derrière lui il y a des équipes, il y a des designers, il y a des gens qui sont là pour réfléchir, penser. Effectivement, il viendra peut-être mettre un peu moins son doigt dans la communication. Mais il faut pas s'en inquiéter plus que ça, d'autant plus qu'ils ont déjà bien repris leur com, qui est de dire « on a pour 10 ans de produits ». Ça paraît très long sur la date, mais on sait que sur les 5 prochaines années, on risque encore d'avoir des yeux qui brillent.
Tim Cook, ce n'est pas Steve Jobs. Il a la pression aujourd'hui, selon vous ?
Non, parce que c'est déjà quelqu'un qui avait remplacé Steve Jobs au moment où il y avait eu ce premier arrêt maladie. Donc on se doute bien aussi que Steve Jobs n'a pas choisi n'importe qui dans ses équipes et ses amis. Et c'est quelqu'un qui est dans le bateau depuis très très longtemps et qui avait déjà fait un premier remplacement. Donc non, espérons, entre guillemets, que tout aille bien pour tout le monde et que, pourquoi pas rêver peut-être à quelques baisses de prix.
Pourquoi pas, on y rêve tous, effectivement. Merci Damien Manquel d'avoir accepté l'invitation d'Antoine Drou, journaliste spécialisé en nouvelles technologies pour le site Zataz.com. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Apple aujourd'hui. Retour en Suisse, y aura-t-il vraiment 300 policiers supplémentaires à Genève ? Pris hors contexte, le chiffre donné hier par la conseillère d'État Isabelle Rocha peut le faire croire, mais dans un premier temps, la réserve opérationnelle affectée aux missions urgentes comptera plutôt une vingtaine de policiers, Pierre-Antoine Préti.
Le chiffre lâché hier par Isabelle Rocha concerne l'effectif attribué au moment de la réorganisation Phoenix, la réorganisation de la police genevoise, qui sera effective dans 2 ou 3 ans, hein, pas avant. Il n'y aura donc pas 300 policiers de plus dans l'immédiat dans les rues de Genève. Si l'effet d'annonce du Conseil d'État genevois est fort, il faut tout de même le pondérer. Dans les arcanes du département de la sécurité, on parle plutôt d'une vingtaine de policiers dans un premier temps. Une vingtaine de policiers pour constituer cette fameuse brigade d'intervention. Voilà l'effectif que l'on peut grappiller pour l'instant au sein des 1300 policiers genevois en poste. Un effectif qui n'est d'ailleurs pas définitivement chiffré à moins d'une semaine de sa mise en place. Mais l'annonce du Conseil d'État, on l'aura compris, ne pouvait attendre. Une annonce si pressante d'ailleurs que ni les syndicats de police ni le Grand Conseil n'ont été prévenus de cette nouvelle disposition. Et le chiffre de 300 policiers supplémentaires pris hors contexte a fait évidemment grande impression.
Pierre-Antoine Préti en direct de Genève. On va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Sur l'axe Lausanne-Genève, un accident est survenu entre la jonction de Coppet et l'échangeur du Vengeron en direction de Genève. Le trafic est perturbé à cet endroit. Fin 2010, la population de la Suisse s'élevait à 7 870 100 habitants. La Suisse compte ainsi 84 000 personnes de plus qu'en 2009. Un quart des personnes résidant en Suisse sont des immigrants et un habitant sur 8 vit à Zurich, Genève, Bâle, Lausanne ou Berne, a indiqué l'Office fédéral de la statistique ce matin. Le budget 2012, arrêté par le conseil exécutif du canton de Berne, est déficitaire et ce pour la première fois depuis 1997. Il se solde par un excédent de charges de 156 millions de francs sur un budget total de 10 milliards. Le gouvernement cantonal a un gros souci dans la mesure où ses comptes 2012 ne respectent pas la consigne constitutionnelle bernoise du frein à l'endettement, Maurice Ducasse.
Pour être accepté, le budget 2012 doit être avalisé par le Parlement cantonal à une majorité des 3/5 des députés et le débat parlementaire risque d'être houleux. Le gouvernement fait d'ores et déjà savoir que l'on a ici un budget qui est aux limites du supportable. Un refus aurait pour conséquence, explique l'exécutif cantonal, de limiter de façon drastique l'exécution des tâches publiques, de provoquer des blocages en matière de politique financière et de porter atteinte à la réputation du canton de Berne. Le gouvernement pense avoir élaboré un budget acceptable compte tenu des paramètres actuels. Parmi ces paramètres, il y a la baisse de la part bernoise au bénéfice de la Banque nationale suisse. Le canton devrait finalement recevoir 84 millions au lieu de 209 millions. Un très gros manque à gagner. Et puis le budget présenté ce matin doit aussi tenir compte d'un recul de 100 millions concernant la taxe des véhicules routiers. Et ce, même si le peuple doit revoter sur ce projet populaire qui prévoit une baisse de l'imposition des véhicules. Bref, les perspectives financières bernoises sont difficiles et le débat politique sera sanglant.
Maurice Doucas en direct de Berne. Revenons aussi dans ce journal sur le faux pas verbal de Doris Leuthard. Lundi soir, c'était à Zurich. Un faux pas qui n'en finit pas de défrayer la chronique. Petit rappel, lors d'un podium politique, la ministre des Transports a qualifié les riverains allemands de l'aéroport de Kloten de talibans. De quoi provoquer une solide vague d'indignation en Allemagne. Certains riverains exigent déjà des excuses de Doris Leuthard. Christian Favre, est-ce qu'on peut parler de gaffe diplomatique?
Disons que la conseillère fédérale argovienne n'est pas du tout coutumière de ce genre de dérapage. Et alors que plusieurs soldats allemands ont été tués en Afghanistan par des talibans, cette comparaison flirte très sérieusement avec la ligne rouge. Elle a en tous les cas provoqué de très vives réactions dans la presse ces derniers jours, mais aussi sur Internet. Le site du Tagesanzeiger enregistre déjà près de 700 commentaires. L'association des riverains du Bade-Württemberg, qui lutte contre les nuisances de l'aéroport de Kloten, menace elle déjà de radicaliser ses revendications si Doris Leuthard ne s'excuse pas. Du côté des services de la ministre des Transports, on affirme que cette provocation n'était pas préméditée. On nous l'a dit tout à l'heure, la question d'éventuelles excuses n'a pas encore été discutée. Reste que sur le plan politique, à gauche comme à droite, si on condamne le dérapage verbal, on dit aussi, à l'image de la maire socialiste de Zurich, Corinne Mauch, comprendre l'impatience de Doris Leuthard. D'autres, comme l'ancien ambassadeur de Suisse en Allemagne, Thomas Bauer, estiment que ce coup de gifle a valeur d'étincelle, une sorte d'électrochoc avec pour ambition de débloquer un dossier en panne depuis bientôt 30 ans.
Christian Favre, en direct de notre studio du Palais fédéral. Que vont devenir la Station spatiale internationale et son équipage? C'est la question qui se pose après la décision de la Russie de suspendre les lancements des fusées Soyouz jusqu'à nouvel ordre après une série de lancements ratés. À Moscou, correspondance de Madeleine Leroyer.
Les 6 hommes qui vivent en ce moment dans la Station spatiale internationale devront attendre. Le vaisseau cargo Progress M12, qui devait les ravitailler aujourd'hui, s'est trompé d'orbite hier avant de se disloquer dans l'atmosphère. Des débris ont été retrouvés dans le sud de la Sibérie, heureusement dans une région non peuplée. L'incident s'est produit moins de 6 minutes après le lancement effectué par une fusée Soyouz. Roscosmos décide donc de clouer au sol tous ses lanceurs Soyouz. Le ravitaillement, nous dit-on, est suffisant pour 3 mois. Mais se pose la question des vols habités. Roscosmos vient de supprimer de son site internet les informations sur le vol du 22 septembre qui devait assurer la rotation de l'équipage. Il faut savoir que depuis l'arrêt cet été des programmes américains Atlantis et Endeavour, les Soyouz sont les seuls capables d'acheminer des hommes vers la station. C'est donc un revers de taille pour le programme spatial russe. La semaine dernière déjà, Roscosmos avait suspendu tous les lancements de ses fusées Proton après un 4e échec en moins d'un an. En avril, les têtes avaient valsé à la direction de Roscosmos. Visiblement, cela n'a pas suffi. Madeleine Leroyer, Radio Suisse Romande, Moscou.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
Label bio, label de qualité, label de l'UNESCO. Ces dernières années, les certifications sont toujours plus nombreuses. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel se penche ce soir lors d'une conférence débat sur cette multiplication des labels et sur leurs répercussions, notamment en ce qui concerne le label de l'UNESCO. En direct de Neuchâtel, Olivier Schintz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous participez d'ailleurs ce soir à cette table ronde. On va prendre l'exemple de la Chaux-de-Fonds, dont le patrimoine architectural est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Le label UNESCO, est-ce qu'il a vraiment changé déjà quelque chose pour la Chaux-de-Fonds?
Alors, bien sûr qu'il a déjà changé quelque chose à la Chaux-de-Fonds. Alors, ce soir, nous aurons un intervenant de qualité en la personne de M. Jeanneret, grand responsable du site de la Chaux-de-Fonds, le Loc, pour nous en parler. Mais je crois qu'une première chose qu'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une certaine fierté qui peut se dégager de l'attribution d'un label comme celui d'UNESCO pour les habitants de la Chaux-de-Fonds. Ce n'est plus la même chose d'habiter dans une ville sinistrée par la crise horlogère des années 80 ou dans une ville reconnue par l'UNESCO au patrimoine mondial. Donc, ne serait-ce que dans le regard qu'on peut porter sur une ville et dans la manière que l'on a de se percevoir, il y a déjà eu des changements.
Et puis ça a des retombées évidemment économiques pour le tourisme. Là on sait si c'est des fois immédiat, tout de suite les gens s'intéressent à ça, se disent « Ah il y a un label, je vais aller voir cette région », comme le Lavaux par exemple qui a un bon succès.
Oui, alors ce que je sais, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces régions particulièrement, mais les répercussions au niveau du tourisme et de l'économie sont assez immédiates. Ce que je sais, par exemple, de la Chaux-de-Fonds, c'est que c'était peut-être même un peu trop rapide, puisque, vous savez, il y a les sacro-saintes vacances-horlogères, hein, où tout ferme à la Chaux-de-Fonds en été. Eh bien, les premières années après l'inscription du site de la Chaux-de-Fonds et du Locle à l'UNESCO, les touristes débarquaient dans cette ville quasiment morte, où plus aucun restaurant, plus aucun hôtel était ouvert. Donc je pense que les répercussions économiques sont effectivement rapides, mais sans doute pas aussi importantes que ce qu'on pourrait attendre au début.
Alors il y en a certains qui n'ont pas de label, qui essayent d'en avoir puis qui ne l'obtiennent pas. Est-ce que certains peuvent être aussi lésés dans ce genre de multiplication d'attribution de labels à certaines régions, à certains cantons, à certaines villes ?
Alors, je pense que c'est un enjeu effectivement contemporain important. Ce que l'on observe actuellement, et notamment avec l'UNESCO, hein, c'est que les labels se démultiplient, les attributions aussi. Et on peut se demander finalement s'il n'y aura pas peut-être une perte de l'importance de ce label. Et une surenchère, effectivement, qui peut se dérouler. À savoir, qu'est-ce qui finalement ne sera pas labellisé ? On a l'impression qu'on peut labelliser quasiment tout aujourd'hui.
Et labelliser le patrimoine immatériel de l'humanité, ça aussi, ça existe, hein, l'UNESCO, c'est labelliser les traditions, c'est ça ?
Voilà, c'est les traditions, les savoir-faire notamment. Il y a une immense opération qui est en train de se dérouler actuellement en Suisse. La Suisse doit faire la recension de son patrimoine culturel immatériel. Actuellement, 320 ou 330 propositions sont remontées par les cantons au niveau de la Confédération. Un choix va être effectué. Il y aura 120 traditions, fêtes, savoir-faire, savoir concernant la nature qui vont être répertoriées comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel suisse.
Connaissance a donc le vent en poupe. Merci Olivier Schintz, anthropologue, merci. Invité par Jérôme Galichet. Donc table ronde ce soir, conférence débat. Bonne journée à vous.
À 20h15, merci.
Football, le FC Sion tentera ce soir de se qualifier pour les phases de poule de l'Europa League de football. Donc le club sédunois accueille les Écossais du Celtic de Glasgow. Il y a une semaine, lors du match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul, 0-0. Joël Robert, est-ce que les chances de qualification de la formation valaisanne sont importantes ?
Oui, chances importantes, on peut le dire ce soir pour Sion. 68e match en Coupe d'Europe pour le club sédunois. Important parce que si Sion se qualifie ce soir, eh bien, il jouera les poules de l'Europa League, comme par exemple Lausanne l'an dernier, avec des retombées sportives, financières, évidemment, intéressantes. Chance intacte, parce que, lors du match aller, on a vu que les deux équipes étaient proches l'une de l'autre. On a surtout remarqué que le Celtic n'était pas une formation absolument faramineuse. 0-0, ça veut quand même dire que Sion doit gagner, parce que match nul avec des buts qualifierait les Écossais grâce aux buts éventuels marqués à l'extérieur. Alors Sion, en tout cas, est motivé. Sur le terrain, elles ne paraissent pas trop perturbées par toutes les affaires extrasportives, ces joueurs valaisans. Chose importante aussi, le match a lieu à Tourbillon, certes dans une enceinte réduite, 8000 spectateurs, mais enfin le public valaisan pourra être là, pourra vraiment jouer son rôle de 12e homme. Alors, est-ce que cet aspect-là peut être déterminant, peut avoir un rôle dans le déroulement de cette partie ? C'est la question qu'a posée Hervé Boursier au joueur sédunois José Gonçalves.
Je pense pas que c'est un handicap parce qu'il y a 50 000 à Celtic Glasgow, mais dans les autres équipes en Écosse, au milieu du tableau, c'est aussi 8000, 6000, donc ils sont aussi habitués à ce genre de support d'autres équipes et d'un terrain aussi, d'un stade aussi comme le nôtre. Je pense qu'ils sont très, très habitués. Alors, il faudra prendre ça au sérieux parce qu'ils ont aussi l'habitude de jouer dans ce genre de conditions.
Ambiance de feu sans doute à Tourbillon, le match est important pour Sion, mais également il y a des autres matchs importants pour les clubs suisses ce soir. Thun joue contre Stoke City, Young Boys contre Braga, les clubs suisses peuvent vraiment ce soir réussir. Allez, un carton plein, pourquoi pas en Coupe d'Europe.
Bon optimisme, Joël Robert. Joël Robert de notre rubrique sportive, et donc Sion Celtic débute à 20h30, un match à suivre en direct sur la première et sur TSR2. Et puis vous donnez encore juste cette nouvelle d'athlétisme. Le Jamaïcain Asafa Powell, l'un des prétendants sur 100 mètres, a déclaré forfait pour le 100 mètres des mondiaux d'athlétisme. Ça débute ce samedi. Asafa Powell, c'est mal remis d'une blessure aux adducteurs. Et en cette période de rentrée scolaire, un ouvrage va sortir tout prochainement. Mon enfant réussit sa scolarité aux éditions Favre. Vous avez écrit ce manuel, Isabelle Pérez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, conseillère pédagogique, coach scolaire et vous partez d'un constat assez négatif au départ. C'est l'abandon. Il y a trop d'abandon dans le système scolaire, ce qui veut dire du découragement aussi de la part des parents et des enfants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une forme de pression sociale liée à la réussite et du coup on abandonne ?
Oui, je crois que la pression sociale, elle est très importante. On la vit tous. Et puis, elle se répercute sur les élèves, sur les enfants qui finalement ne devraient pas vivre aussi jeunes, une pression sur leurs épaules comme ça aussi importante. Parce que si nous, on se rappelle quand on avait leur âge, en tout cas pour ma part, qui ne suis pas bien vieille, j'ai 36 ans, j'avais pas le sentiment qu'il y avait comme ça autant de pression. Je crois qu'on est dans une société.
Elle est plus forte aujourd'hui.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Exactement. Alors, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras, c'est évidemment toute la difficulté. Si on a des difficultés scolaires, il faut toujours penser que oui, peut-être on peut se faire aider. En tout cas, il faut faire un bilan. C'est ça qui est important.
Écoutez, les difficultés scolaires, elles sont rarement le fait d'un seul facteur. Hein. Ça peut être des difficultés à la maison qui se répercutent sur la scolarité. Ça peut être des difficultés liées à un trouble des apprentissages. Ça peut tout simplement être parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes facultés. Et des fois, pour certains, le parcours, il est plus difficile. Donc, je pense qu'il faut en tout cas... que les parents, que les enseignants, on se mette ensemble pour creuser un petit peu et puis pour réfléchir à pourquoi tel enfant n'arrive pas à apprendre correctement.
Alors une réussite dans cet ouvrage, je vous l'expliquais, qui va dépendre de l'estime de soi, de la motivation, des capacités intellectuelles, bien évidemment, du parcours de vie, de la sécurité affective. Votre ouvrage, vous le considérez comme un manuel de soutien parental ?
Oui, écoutez, j'espère. J'espère, c'est un petit peu pour ça que je l'ai écrit. J'espère qu'il ne décevra pas et puis que des parents pourront y trouver des pistes parce que je ne prétends pas avoir la solution. Mon Dieu, si je l'avais.
Vous êtes sur le terrain en même temps. Il y a une légitimité, c'est sûr.
Voilà, il y a une légitimité, mais enfin, après, c'est à chacun, je dirais, d'y puiser un petit peu des pistes et puis de les aménager à sa manière. Et peut-être aussi que pour certains enseignants en début de parcours, bien que le titre soit « Mon enfant », on peut penser à mon élève et certains collègues peut-être y trouveront quelques pistes aussi, elles recommanderont, qui sait, aux parents des élèves.
Dans ce manuel, vous expliquez déjà les premiers pas évidemment à l'école et là vous dites l'importance dès le départ, puisqu'on entre dans un inconnu, c'est oui. Que l'enfant doit avoir sa place et il doit la trouver quasiment tout seul. Hein. Vous demandez un petit peu aux parents de se détacher, l'enfant doit vraiment trouver ses repères lui-même. Quoi.
Oui, c'est vrai que les parents sont inquiets. À partir du moment où l'enfant est scolarisé, il y a des grandes inquiétudes qui sont parfaitement légitimes. Maintenant, il faut arriver à trouver le juste milieu entre, parfois on parle de désinvestissement, ou alors un surinvestissement qui finalement ne profite pas non plus à l'enfant. Donc je dirais, il faut rester attentif, être à l'écoute de l'enfant, garder un contact avec les enseignants, et pour moi, c'est quand même une des clés et ne pas trop faire d'ingérence dans la scolarité de l'enfant.
Et vous dites d'ailleurs, la scolarité de mon enfant n'est pas ma scolarité. C'est le message que vous donnez aux parents. Ils ont tendance à envie peut-être que leur enfant réussisse aussi un peu pour eux-mêmes, pour se sentir rassurés. C'est votre sentiment ?
Oui, je crois qu'à partir du moment où on a un enfant, on a envie que tout lui sourie, on a envie qu'il ait la santé, on a envie que plus tard il ait un beau métier et qu'il soit épargné par tous les soucis. Simplement, c'est pas toujours facile à réaliser et les parents se sentent vite coupables et puis en plus chaque parent n'a pas forcément eu un parcours scolaire limpide, donc ils revivent un petit peu cette scolarité-là, mais le but doit être le but de l'enfant et pas le but du parent, je crois. Enfin,
ça a l'air simple comme ça.
Oui, ça a l'air très facile. Bien sûr, je suis bien consciente que ça ne l'est pas. Oui. Ce sont des conseils, mais voilà, le positionnement de parents par rapport à l'école, il est extrêmement difficile.
Je vous remercie, Isabelle Pérez, enseignante, conseillère pédagogique, coach scolaire. Un site d'ailleurs qui vous concerne, ipcoaching.ch. Et Mon enfant réussit sa scolarité, eh bien ce sera disponible entre demain et lundi aux éditions Favre. Donc il va sortir tout chaud ce manuel des éditions Favre. Vous avez donc coécrit ce manuel, vous êtes passé dans nos studios. Plus d'infos également sur rsr.ch. Isabelle Pérez, bonne journée à vous.
Merci.
Et un mot encore de la bourse suisse à la mi-journée. L'indice S&P est en hausse, 0,8% à 5374 points. La météo de Carole Dubuis.
Cet après-midi, les passages nuageux seront plus nombreux. Localement, on trouvera quelques averses et orages violents avec des rafales, surtout dans les Préalpes. Il fera 29 degrés en pleine au maximum et même 31 en Valais où la vie de canicule prendra fin seulement ce soir. Un vent modéré de sud-ouest soufflera en montagne. Il sera plus faible en pleine. Il fera 0 à 3800 mètres. Demain, la matinée restera bien ensoleillée malgré quelques averses possibles. En fin d'après-midi, une perturbation apportera des précipitations orageuses violentes. Le temps restera sec en Valais jusqu'en soirée grâce à l'effet de Föhn. Il fera 27 degrés au maximum en plaine, 31 en Valais. Météo Suisse lance aujourd'hui un avis d'orage violent avec fortes rafales, grêle et ou précipitations soutenues pour le nord des Alpes, le Chablais, les Préalpes et le Valais central. Il commencera vendredi à midi et se terminera samedi à 6h du matin. Le week-end s'annonce plus ensoleillé mais frais avec un maximum de 22 degrés en plaine.
La météo avec Café Kikodoro et son système à capsules. Infotrafic RSR.
Deux accidents sur l'axe Lausanne-Genève entre l'échangeur des Cublans et la jonction de Morges Est. La voie de droite est bloquée. Un important bouchon s'est formé entre la jonction de Coppet et l'échangeur du Vengeron. Un embouteillage est aussi observé à cet endroit. Fin de ce journal de 12h30. Merci à l'assistance technique, à la rédaction. Excellent après-midi à vous sur la première. Forum 18-19h et là, il est 13h. Excellent après-midi.